débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Le Débat BBC Afrique, Africa Radio. Ravi de vous retrouver, Liliane Niacha. Bonjour.
Merci Saint-Ish Mantar Tomté, plaisir partagé. Bonjour à tous nos auditeurs et nous commençons par la Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne joue-t-elle sa survie? Les législatives du 6 mars prochain donnent lieu en son sein à une houleuse bataille de positionnement qu'elle pourrait payer cash, Saint-Ish.
Liliane, alors que le délai de dépôt des candidatures est arrivé à terme ce vendredi 22 janvier, le front de l'opposition apparaît plus que fissuré. Les deux ex-présidents Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo ont engagé leur parti dans le processus pour, disent-ils, conquérir l'hémicycle et ne pas laisser carte blanche au RHDP d'Alassane Ouattara. La stratégie trahit les aspirations du peuple ivoirien et les engagements pris estiment d'autres leaders de l'opposition qui refusent, eux, de prendre part au scrutin. Une opposition bien malmenée qui joue sa crédibilité et peut-être sa survie, vous l'avez dit Liliane. Analyse et commentaires à suivre.
Bangui subit le blocus imposé par des rebelles de la CPC qui semblent vouloir isoler et affamer la capitale centrafricaine. C'est du moins ce qu'affirment la MINUSCA et les autorités.
C'est une stratégie d'asphyxie qui relève du terrorisme, dénonce le président Faustin Archange Touadéra. 1600 camions sont stationnés à la frontière avec le Cameroun, à l'intérieur notamment de la nourriture et des médicaments. L'ONU dit craindre un drame social à Bangui alors que la situation sécuritaire semble s'enliser un mois après le début des offensives des rebelles réunis dans la coalition des patriotes pour le changement qui veut renverser le président Touadéra.
Dernier sujet, la RDC, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui se prononce contre le mandat impératif. Est-il le coup de grâce au FCC de Joseph Kabila ?
Un arrêt qui, Liliane, libère le député congolais de l'obligation de voter selon les consignes de son parti ou regroupement politique. Dans cette guerre pour le contrôle des institutions, la décision peut être salvatrice pour les députés encore hésitants à rejoindre le camp du président Félix Tshisekedi avec son initiative de l'Union sacrée. Mais au-delà, quel est l'impact ou quel sera l'impact sur la classe politique à long terme? Nous en débattrons avec nos invités. À vous Liliane pour nous les présenter justement.
Et il s'agit de Henri Niava qui est notre grand témoin. Il est président de l'Union des sociaux-démocrates USD et porte-parole de la plateforme de 7 partis politiques d'opposition qui ont annoncé et qui ne participeront pas aux législatives du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire. Monsieur Niava, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Deux journalistes sont également avec nous. Jean-Pierre Kayembe, promoteur du site 24h.cd à Kinshasa. Je ne sais pas si Jean-Pierre est déjà avec nous. Jean-Pierre, vous êtes là ? Pas encore.
Bonjour madame, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs. Je suis là, évidemment.
Merci Jean-Pierre d'être avec nous. Merci également à vous Mathurin Momet, directeur de publication du quotidien Le Confident. Vous êtes à Bangui. Mathurin, bonjour.
Bonjour. Bonjour et bonjour à toute l'équipe de rédaction.
Merci à vous. Saint-Ish, le premier sujet, la Côte d'Ivoire.
L'opposition ivoirienne qui affichait il y a encore quelques mois, on se rappelle Liliane, un front uni face au troisième mandat du président Alassane Ouattara est divisé aujourd'hui. Les uns notamment parmi lesquels les deux plus grandes figures ou les deux grandes figures de la politique, les deux ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont accepté d'aller aux législatives déclarant vouloir peser dans le débat politique face au RHDP et ne pas lui laisser les mains libres. Les autres, on parlera de Blé Koudé avec son parti le COGEB ou encore ce regroupement de 6 partis politiques et de mouvements dont l'USD, votre formation politique, M. Henri Niava, dénonce la participation de l'opposition au scrutin. Vous estimez, M. Niava, je cite, que cette position, cette participation porte atteinte à l'unité de l'opposition, à sa cohésion et nuise gravement à la crédibilité des leaders politiques. M. Niava, est-ce qu'il s'agit juste de divergences stratégiques en ce qui concerne ces législatives ou alors de guerre de positionnement comme certains observateurs le disent?
Merci, bonjour à tous vos auditeurs. Je suis heureux de vous avoir à l'antenne et d'avoir cette opportunité de partager notre lecture de l'actualité ivoirienne sur les dernières questions qui agitent le microcosme politique. Vous me posez la question de savoir s'il s'agit d'une guerre de positionnement ou une question de fond. Alors, il s'agit des deux. Souvenez-vous que l'opposition, au sortir du 31 octobre 2020, au terme d'une longue marche qui lui avait permis de réaliser de façon historique son unité et sa cohésion autour du président Henri Conan-Bédier, l'opposition avait réaffirmé sa détermination à restaurer la Côte d'Ivoire par une lutte contre la dictature d'Alassane Ouattara. Cette dictature, nous l'avons déjà signalé à plusieurs niveaux, c'est notamment illustré par le mépris qu'a le régime actuel du respect des institutions, mais alors, également...
Monsieur Niava, je me permets de vous ramener un peu sur ma question, parce que là, nous parlons aujourd'hui des actes posés par les leaders de l'opposition. Ce sont vous, les leaders de l'opposition, qui vous étiez entendus sur des points donnés, et c'est encore vous, aujourd'hui, qui allez en rang dispersé dans le cadre de ces législatives, certains comme vous refusant catégoriquement d'y aller. Aujourd'hui, l'autre partie de l'opposition qui va aux élections dit qu'il y a nécessité d'être présente à l'hémicycle pour pouvoir faire le poids devant le RHDP. Vous, vous dites non. Est-ce qu'il s'agit juste de stratégies différentes de cette opposition ou réellement on parle de guerre de positionnement ou même de survie de certains partis politiques pour les 5 années à venir?
Alors, vous n'avez certainement pas compris pourquoi je voulais faire ce détour, parce que la question fondamentale qui est posée...
Alors, l'actualité étant déjà là, nous allons aller directement à l'actualité, vous savez que...
Je vous parlais d'actualité, mais il était important de donner le contexte. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'aller à des élections, il s'agit d'un contrat que nous avons passé avec le peuple de Côte d'Ivoire et qui nous a... le 9 décembre dernier, à travers le discours du président Bédier, de poser deux problèmes. Notre participation à des discussions avec le régime et la participation aux prochaines élections. On avait mis un certain nombre de conditions très strictes pour que, sur la base de ce que nous avons déjà vécu avec ce régime, vu la mauvaise foi que ce régime a tout le temps démontré, nous avons mis un certain nombre de conditions pour éviter d'aller sans condition discuter avec ce régime. La deuxième chose, nous avons dit que nous ne participerions à aucune autre élection tant que la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire ne serait pas réformée aux normes internationales prescrites par la commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Puis, son arrêt du 15 juin 2020 a enjoint l'État de Côte d'Ivoire de mettre cette commission électorale aux normes internationales, à notre demande à nous, l'opposition. Donc c'est un problème qui ne s'arrête pas à la question des législatives. Elle emporte également notre cohérence par rapport aux promesses et aux engagements que nous prenons vis-à-vis de la sphère publique, vis-à-vis des populations. Et il s'agit aussi, comme vous le dites, de notre participation aux élections. Et donc, dans la participation aux élections, il ne s'agit pas de guerre de positionnement, il s'agit tout simplement que ceux qui décident d'aller à ces élections ont décidé de faire passer leurs intérêts personnels, leurs calculs personnels, avant ceux de la Côte d'Ivoire, parce que nous savons tous que ceux-là vont se faire humilier, parce que le régime actuel du RHDP au pouvoir n'a jamais voulu faire des élections transparentes.
Toutes les
élections qu'elles ont menées en Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui ont été des élections faussées à la base.
Monsieur Niava, certains de vos camarades issus de cette partie qui ne participent pas aux élections affirment que celle-ci est jouée d'avance. Pour revenir à la question précisément de ma collègue Saint-Tiche, le GPS de Guillaume Soro affirme que son problème, c'est entre autres la façon dont les discussions devant aboutir à ces élections ont été menées. Le COGEP, lui, désapprouve la façon aussi dont le gouvernement a procédé pour l'organisation et la convocation même du corps électoral. Vous, qu'est-ce qui vous divise précisément quand vous dites que le parti, les autres partis qui partent aux élections ont choisi de faire le positionnement? Quels sont les actes que ces partis ont posés et qui aujourd'hui vous divisent précisément?
Le premier acte de leur part qui nous étonne, c'est que nous étions tous d'accord, ayant ensemble mené les discussions sur le processus électoral, sa transparence, sa justesse et son caractère équitable, nous avons constaté ensemble que le pouvoir n'a jamais été de bonne foi et a exprès fait capoter ces discussions pour se donner la possibilité de prendre des décisions unilatérales uniquement tournées vers les intérêts de ce régime.
Donc, d'après vous, vous ne comprenez pas que l'opposition décide d'accepter d'aller aux élections malgré son manque de représentativité ou sa faible, le manque d'équilibre de la commission électorale. Premier point.
Alors, c'est quand même curieux de constater que cette commission électorale, qui était la même pour toutes les autres élections, soit celle que nous acceptions de cautionner aujourd'hui,
pour les législatives,
alors que rien n'a changé.
D'accord.
Et deuxième nous point. Prétendons, oui, deuxième nous prétendons point, aller en renserrer pour gagner. C'est étonnant.
Saint-Tiche,
sur ce dernier point de M. Niava qui dit que la commission électorale n'a pas changé dans le cadre de ces législatives, je voudrais le faire réagir sur ce que les autres disent. Et ils affirment que la crise autour du troisième mandat d'Alassane Ouattara est survenue justement parce que l'opposition n'était pas assez représentée, ce sont les mots de M. Pascal Afinguissant, n'était pas assez représentée dans les institutions. M. Niava.
Oui, c'est pas une bonne analyse parce que jamais l'opposition ne peut être représentée dans les institutions à titre équitable quand nous avons en face un régime qui considère que rien ne peut se faire en Côte d'Ivoire sans que lui, RHDP, n'ait la primauté et exerce une domination sans partage sur l'ensemble des institutions, y compris le Parlement. Vous avez vu par quel artifice honteux et étonnant le Sénat a été créé, et au XXIe siècle, voilà un Sénat qui est composé pour partie de députés élus, de parlementaires élus, et pour partie de parlementaires sénateurs nommés. On se croirait au XVIIIe siècle.
Merci, M. Niava.
Mais finalement, M. Niava, qui sont vos adversaires? Ce sont vos alliés d'hier de l'opposition ou le RHDP?
C'est une très belle question. Au terme de la conférence de presse que nous avons dite le mercredi 13 janvier dernier, la même question nous a été posée et nous avons affirmé que nous demeurons membres à part entière de l'opposition. Cependant, notre devoir à cette étape de notre lutte est d'interpeller nos amis, ceux qui ont fait la mauvaise lecture d'aller à ces élections, et de discuter sans condition avec le régime pour qu'ils fassent machine arrière en se ressaisissant. C'est ensemble, et c'est urgent que nous nous retrouvions maintenant, rediscuter de notre crédibilité et de notre efficacité.
Donc, vous accusez les autres qui partent aux élections de complaisance et vous les appelez à renoncer à participer à ce scrutin et vous dites en même temps que vous demeurez membre de l'opposition. À quoi, quel est donc l'avenir de cette opposition, finalement, si elle va à cette élection de manière divisée, comme ça pourrait être le cas? Est-ce qu'elle va pouvoir survivre après la prochaine législative?
Là aussi, c'est une très belle question. Nous militons très activement pour que cette opposition reste totalement unie parce que nous croyons fermement que l'homme est perfectible et que chacun peut se tromper. Alors, il est temps, à n'importe quel moment, de se ressaisir et d'accepter que nous nous retrouvions pour discuter.
Merci, Monsieur Niava. Vous permettez, nous allons prendre les premières impressions de nos confrères journalistes avant de revenir à vous, Liliane.
Oui, avec Mathurin Momé sur cette opposition qui va diviser à la prochaine législative, alors que celle-ci qui a boycotté pendant une dizaine d'années les scrutins en Côte d'Ivoire, espérait obtenir peut-être une majorité pour être un vrai contre-pouvoir au RHDP.
Bon, un peu partout en Afrique, l'opposition a toujours brillé par l'incohérence. C'est les querelles de leadership, les calculs politiciens. Et vraiment, l'absence d'une stratégie fiable pour vraiment inverser la tendance, c'est-à-dire faire en sorte d'assurer l'alternance qui manque à l'opposition en Afrique. Et c'est ce que nous vivons en Centrafrique, précisément. Et nous estimons que l'opposition doit se ressaisir en Afrique si nous voulons vraiment que notre démocratie puisse atteindre le cycle de maturité et évoluer dans le sens. Il n'y a pas plusieurs principes démocratiques. C'est des principes standards qui doivent se retrouver un peu partout. Mais curieusement, nous ne faisons que régresser par la volonté de nos dirigeants. C'est ce que je puis affirmer à la lumière de ce que mon confrère de la RDC vient de développer.
C'était l'invité, M. Niava, de la Côte d'Ivoire.
On va justement écouter maintenant Jean-Pierre Kayembe. Est-ce que vous partagez l'analyse de Mathurin Momé qui estime que l'opposition manque de cohérence, de stratégie claire pour conquérir le pouvoir? À chaque fois, c'est comme si elle est un peu surprise du calendrier électoral.
La parole que vous m'accordez, je salue l'ensemble de vos auditeurs. Oui, je le pense, hein, comme le confrère Centrafrique l'a dit, je pense que l'opposition africaine très souvent par cette incohérence et la position du groupe de cette partie ivoirien dresse à vie un boulevard devant le RHDP de M. Ouattara qui a été élu, on sait tous, dans une position controversée, alors que ici au Congo, nous avons connu une alternance pacifique au terme de deux mandats de M. Kabila. Vous avez à côté Abidjan, M. Ouattara, âgé, qui a épuisé son bail, qui fait un coup de force. Cette opposition n'a pas réussi à barrer la route à M. Ouattara.
Mais justement, la prochaine élection législative n'était-elle pas l'occasion pour l'opposition de se mettre ensemble, de se renforcer et de pouvoir imposer une opposition parlementaire solide à Alassane Ouattara?
C'est compliqué, vous savez, je crois qu'il y a ce Paul Biya qui le disait qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre.
Je pense que c'était plutôt le Gabonais.
Oui. Ce sont des propos attribués au président gabonais.
Donc je disais que je ne vois pas la Côte d'Ivoire arriver au cas de la RDC. Vous avez un président qui gagne, qui remporte la présidentielle et qui perd aux législatives. Et même si cela pouvait arriver, je pense que le cas du Congo va servir à Ouattara de leçon, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter d'avoir de perdre la majorité au Parlement. Voilà, il n'a pas de majorité, il est en train de faire un coup de force pour ravir, si vous voulez bien, la majorité à M. Kabila.
Alors, merci beaucoup Jean-Pierre. Liliane, nous avançons sur le temps.
On va marquer une pause, Saint-Tich, et on se retrouve dans un instant pour poursuivre le débat sur notre premier sujet, la Côte d'Ivoire.